Géopolitique, Chantal Loureau.
Bonjour, bienvenue dans Géopolitique. Le 15 novembre dernier, des manifestations de colère éclatent en Iran après l'annonce surprise dans la nuit par le président Rouhani d'une hausse du prix de l'essence. Le mouvement de contestation fait tache d'huile, des dizaines de villes sont en ébullition, des stations-service, des supermarchés, des commissariats et même des mosquées sont incendiées. Le gouvernement coupe Internet pendant 2 semaines et choisit d'écraser la révolte dans le sang. Plus de 300 morts selon Amnesty International, qui dénonce par ailleurs plus de 7000 arrestations. Et parmi ces 300 morts, une vingtaine d'enfants de 12 à 18 ans. Pourquoi une telle répression à huis clos? Les sanctions américaines sont-elles en train d'asphyxier l'économie iranienne? Le régime de Téhéran est-il aux abois? Jusqu'où compte-t-il aller dans la reprise de ses activités nucléaires? La stratégie de pression maximale des États-Unis sur l'Iran est-elle vouée à l'échec? On en débat avec nos invités. Azadeh Kian, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeure de sociologie, spécialiste de l'Iran et directrice du CEDREF, le centre d'enseignement, de documentation et de recherche pour les études féministes à l'université Paris Diderot, Paris 7. Votre dernier livre, Femmes et pouvoir en islam, est paru chez Michalon. Fariba Achroudi, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste et écrivaine. Vous avez publié chez Albin Michel Le colonel et l'APA 455.
Oui, le dernier.
Clément Terme, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheur post-doctorant dans l'équipe Savoir nucléaire aux séries Sciences Po, spécialiste du monde iranien. Les éditions Passé Composé publieront en février prochain un ouvrage collectif que vous avez dirigé, L'Iran et ses rivaux, entre nations et révolutions. Fariba Achroudi, je vais commencer avec vous. Vous étiez en Iran quand les troubles ont éclaté mi-novembre. Avez-vous été surprise par l'ampleur de la contestation et surtout par la répression féroce qui a suivi?
Je vais vous dire une chose qui, justement, peut intéresser les auditeurs, c'est que quand on est en Iran, on est au courant de rien. Surtout que moi, je n'étais pas à Téhéran même, j'étais à Golestan, qui est dans le nord de l'Iran, et c'est l'endroit où il y a eu les victimes des inondations de l'année dernière, d'une ampleur sans précédent. Et quand je suis rentrée à Téhéran, c'est-à-dire à l'aéroport, on nous a dit il y a visiblement des troubles, etc. Mais on ne savait rien. Il y avait déjà des banques incendiées, il y avait eu déjà certainement des morts. Je suis arrivée à l'aéroport de Téhéran, une queue sans précédent de je ne sais pas de combien kilomètres. Et c'est là, j'ai vu que l'Internet ne marchait pas. Je suis rentrée chez moi ne sachant toujours rien. Vous voyez, rien. Et c'est intéressant dans la mesure où justement à quel point ils arrivent déjà à l'intérieur de l'Iran de nous couper de quartier en quartier. J'ai appelé des amis, ils ne savaient rien en disant « on a entendu que ». Et comme je ne pouvais pas avoir ni Le Monde, ni L'Étranger, ni... Et France 24 fonctionnait et c'est par France 24 que j'ai su qu'il y avait eu des troubles énormes dans le pays. Et évidemment, à partir du lendemain, j'ai pu quand même me renseigner, je suis allée dans les rues et j'ai vu.
Azadeh Kian, est-ce qu'on peut dire que ces manifestations sont les plus importantes depuis la révolution islamique?
Non, il ne faut pas oublier qu'en 2009, juin 2009, il y a eu le mouvement vert où 3 millions de personnes se sont trouvées dans la rue pacifiquement pour protester contre la fraude électorale massive qui a remis au pouvoir Ahmadinejad. Et à cette époque-là aussi, la manifestation a été réprimée. Il y a eu environ 52 tués. Puis, en décembre 2017, janvier 2018, des jeunes issus des classes populaires sont descendus dans 80 villes petites et moyennes iraniennes où il y a eu moins de répression. Mais à cette époque-là, déjà, environ 4000 personnes avaient été arrêtées et de nouveau une cinquantaine de tués, peut-être même plus. Et donc, c'est la troisième fois qu'on est face, depuis 2009, à des émeutes, mais cette fois-ci aussi, comme en 2018, il s'agit des classes populaires. Il ne s'agit pas des classes moyennes supérieures, ni même des classes moyennes. Si vous regardez où se trouvent les émeutes et les manifestants, et c'est pour ça que Fariba n'a pas été peut-être mise au courant rapidement, c'est que même à Téhéran, par exemple, c'est un quartier spécifique, c'est ça, derrière qui est un quartier de classe moyenne plutôt inférieure, qui est toujours le centre des émeutes, y compris en 2018, mais pas ailleurs à Téhéran nécessairement. Dans des autres grandes villes comme Shiraz, Isfahan, etc., aussi ce sont des quartiers spécifiques qui avaient été la scène de ces mécontentements. Et ces quartiers, encore une fois, sont habités en particulier par des classes moyennes et des classes populaire. Donc, pour vous dire que ces classes populaires, qui étaient censées être des piliers de ce régime, se trouvent dans la rue, manifestent contre le régime et sont tuées. Si vous, aujourd'hui, après quand même quelques semaines, on a des témoignages des parents, des jeunes qui ont été tués. Il faut voir qui ils sont. Il y a des parents qui étaient effectivement, qu'on appelle John Boss, c'est-à-dire blessés de guerre. Il y en a qui étaient des fils des personnes tuées sur le front de la guerre Iran-Irak, etc. C'est-à-dire ceux-là même qui étaient censés être des piliers de ce régime, qui sont aujourd'hui dans la rue, et pas aujourd'hui, mais depuis au moins 2017-2018, pour contester contre ce pouvoir et sa politique économique et sociale libérale ou néolibérale, qui effectivement est très au détriment des pauvres, parce qu'on sait qu'il y avait d'autres moyens d'alimenter l'État. Vous savez, au lieu de taxer les pauvres avec l'augmentation du prix de l'essence, il y a des ultra-riches en Iran qui ne payent aucun impôt. Il y a énormément de fondations, dont la fondation Khatab al-Anbiya qui appartient aux gardiens de la révolution. Il y a Astan Rhodes et j'en passe et d'autres qui effectivement gaspillent la richesse nationale, qui ne payent absolument aucun impôt et qui continuent à faire comme si de rien n'était. Donc c'est contre ces politiques-là que les gens, ces jeunes étaient dans la rue. D'ailleurs, il y avait environ 5500 femmes qui ont participé à ces manifestations et vous savez que plusieurs ont été tuées, dont parmi les enfants que vous avez cités tout à l'heure, il y a plusieurs jeunes femmes.
Clément Terme, quand le pouvoir donne l'ordre de tirer à balles réelles sur des manifestants, quand des pick-up équipés de mitrailleuses lourdes et des chars patrouillent dans les villes, qu'est-ce que ça signifie? Que le régime est aux abois?
Non, ça signifie que cette fois-ci, ce qui est nouveau, ce n'est pas le nombre de manifestants. Comme l'a expliqué Azadeh, il y avait un plus grand nombre de manifestants en 2009, mais c'est la violence de la répression et le nombre de morts. Vous avez cité le bilan d'Amnesty International, plus de 300 morts lors des manifestations de novembre. Et le problème pour le régime, c'est qu'il a quand même signé des traités internationaux. Donc il a quand même des engagements en termes de respect des droits de l'homme, de droit à la liberté d'expression, droit au rassemblement pacifique. Et il accuse en fait les manifestants d'user de la violence. Donc ce qui est inquiétant aussi, et ce qui est nouveau dans ces manifestations, c'est le recours à la violence et le risque que la capacité du régime à organiser des élections pour canaliser les mécontentements soit un phénomène du passé. Donc c'est le cycle répression-manifestation. Donc on a eu 3 événements au cours des 10 dernières années qui risquent de s'accentuer parce que plus la répression est violente, plus la manière de gérer ces mécontentements par le régime va produire des nouvelles manifestations. Donc là, c'est là où est le danger, c'est la fuite en avant, sécuritaire, autoritaire, et le fait que on arrive dans une situation où l'économique, c'est-à-dire les ventes de pétrole qui permettaient en fait de coopter les mécontentements, d'acheter la paix sociale, soit avec les sanctions massives dont est victime l'Iran, un moyen de préserver la paix civile qui ne soit plus à la disposition du gouvernement. Le vote du nouveau budget qui est en cours en ce moment est totalement irréaliste. Le budget qui est proposé par le gouvernement iranien ne correspond pas à la réalité des ressources budgétaires. Parce que dans un État où les gens vont commencer à payer des impôts, le niveau d'exigence vis-à-vis du gouvernement va augmenter. Donc on peut s'imaginer que la volonté de lever l'impôt au cours des prochains mois conduise également à des nouvelles manifestations. Et l'idée qu'une nouvelle administration américaine réglerait l'ensemble des problèmes de l'Iran est à mon avis illusoire, parce que le problème qu'ont les États-Unis avec l'Iran n'est pas forcément lié à une alternance entre démocrates et républicains, et le Congrès avait déjà largement bloqué les projets d'ouverture d'Obama. Donc le problème de l'Iran, c'est la relation avec les États-Unis pour régler le problème économique, mais l'idéologie de la révolution, en fait, empêche le règlement de la question économique.
Fariba, je vous dis, quels sont les slogans qui ont été le plus fréquemment brandis ou scandés par les manifestants?
Vous savez, ça fait depuis un bout de temps les slogans. Là, les slogans sont radicalisés sur la dictature. Mort à la dictature, mort à guide suprême. Les gens hurlent leur mécontentement partout, tous les jours, dans les taxis, dans les administrations. Tous les jours, les gens râlent. Avec parfois des mots violents, des phrases violentes. Moi, j'habite dans un quartier qui est d'ailleurs, c'est tous les jours, je me dis, c'est quand même insensé. Il y a les noms des avenues, c'est le nom des grands terroristes comme Khaled Eslamboli, qui a été l'assassin de
le président Sadat.
Sadat. Bon, deux rues plus bas, c'est Imad Mournier, un autre grand terroriste. Pour eux, c'est des héros de je ne sais quoi. Et il y a un comité qui est vraiment le comité des, c'était le comité des mœurs, qui est, c'était la terreur de la population au début de la révolution, et c'est toujours le comité où quand vous êtes arrêté, les gens doivent aller là-bas pour des vétis, ça peut être des vétis comme des problèmes graves, c'est-à-dire, port du foulard ou... Je suis allée le lendemain, quand je vous ai dit, effectivement, le premier jour, j'étais pas là, le lendemain ou le surlendemain, je suis descendue l'avenue, il y avait un monde fou devant le comité, avec les forces anti-émeutes, des femmes éplorées, des mères de famille qui pleuraient en disant « Mon fils a disparu, je ne sais pas s'il est mort, s'il est à l'hôpital, s'il est... » Et j'ai commencé à parler calmement avec les gens. Alors évidemment, j'étais émue en disant « Mais pourquoi vous faites ça aux gens ?» Notamment deux femmes qui sont dans les forces donc de la milice populaire. Une était avec son gamin qui rentrait. Je l'ai pris en disant « Madame, vous croyez que ça peut continuer comme ça ? L'avenir de votre enfant ?» J'ai dit « Est-ce que vous pensez que les choses vont bien dans ce pays ? Est-ce qu'on peut continuer comme ça ?» Elle m'a dit « Non, vous pouvez me croire ou non, mais c'est, les gens parlent, même les gens du pouvoir, le mécontentement est généralisé dans les administrations, dans la police, dans les... » Alors, il y a les gardiens de la Révolution et il y a le service secret. Ça, c'est autre chose. Et je ne sais même pas si, à la base de ces deux institutions qui tiennent le pays, il y a également des mécontentements, parce qu'on sait qu'il y a de plus en plus de... il y a des Basidji qui quittent le Basij, c'est les forces de la milice. Donc, c'est pour vous dire, pour revenir à votre question, on n'en est plus à ça. Ce n'est plus les slogans. On ne sait plus où on va. Et ils savent, le pouvoir, comme la population... On est assis dans le même bateau, et si le bateau coule, tout le monde coulera.
Azadekian, quand les gens crient mort au Mollah, mort à Khamenei, par exemple, est-ce que c'est pas ça aussi qui a poussé le régime à cette répression féroce?
Ah non, je pense qu'avant ça, parce que c'est pas la première fois que les slogans contre la dictature sont chantés, c'était aussi le cas en 2017-18. Pour revenir à votre question, il y a aussi des slogans qui sont récurrents, à savoir « Ni Gaza, ni Liban, je donne ma vie pour l'Iran ». Ça en dit long sur aussi l'état d'esprit de la population en général, et c'est très lié à la politique étrangère régionale, en tout cas du régime islamique d'Iran, qui, rappelons-le, n'est pas déterminée nécessairement par le gouvernement, mais justement par les gardiens de la révolution, tout à chacun le sait. La politique menée par la République islamique au Yémen, au Liban, en Irak et en Palestine sont des politiques décidées par l'armée Al-Quds, la branche extérieure des gardiens de la révolution. Et donc, quand les gens chantent ces slogans, c'est de dire « Pourquoi vous dépensez la richesse nationale pour maintenir tel et tel groupe armé dans ces pays-là qui vous soutiennent au lieu de soutenir votre propre population ?» Ça, c'est un slogan qui parle beaucoup. Et je pense que l'une des raisons pour lesquelles cette fois-ci la répression était très violente, c'est qu'il y a une concomitance entre les émeutes en Iran, dans plus de 108 villes à Téhéran cette fois-ci, et les émeutes au Liban et en Irak, contre... entre autres, l'ingérence ou les ingérences du régime islamique d'Iran.
Et l'incurie de leurs dirigeants aussi,
mais bien
et
sûr,
la corruption.
Et la corruption. Et là, il y a une concomitance aussi des revendications des peuples iraniens, libanais, irakiens en tout cas, contre tout ça, contre ces pouvoirs effectivement corrompus, dictatoriaux. Et je pense que l'une des raisons pour lesquelles la répression a été féroce est que tout de suite, visiblement, le pouvoir avait donné l'ordre aux forces de coercition de tirer à balles réelles, c'était leur crainte de l'expansion et l'extension de ces émeutes qui visent pas seulement la politique intérieure du régime islamique d'Iran, mais aussi sa politique extérieure et régionale. Et aussi, ils ont peur qu'il y ait bien évidemment des liens étroits entre les Irakiens, les Libanais et les Iraniens en ce moment. Ce qui n'est pas encore le cas, ne serait-ce que parce que les Iraniens ne sont pas arabes, il y a des problèmes de langue, mais de plus en plus, on constate que les ingérences du régime islamique sont contestées par des pans entiers de la population au niveau de Moyen-Orient, et c'est ça aussi qui a fait craindre le régime. C'est pas tant les slogans contre la dictature ou contre Baba Khamenei, ça fait longtemps qu'on entend ça. Mais effectivement, Fariba Chtoudi a raison de dire que on voit de plus en plus que Khamenei, le guide, est vraiment la cible privilégiée, y compris d'un certain nombre de réformistes radicaux qui ont publié une fois de plus des déclarations pour dire que c'est lui le principal responsable de ce que nous subissons et de la répression, parce que c'est lui qui aurait ordonné aux forces de coercition de tirer sur les manifestants. Et donc, il y a de plus en plus de demandes, de revendications, même au niveau des cercles, je dirais, proches de pouvoir, pour que Khamenei cède sa place, etc. Donc voilà, on en est aussi là, au niveau de la direction du régime islamique.
Je veux juste ajouter quelque chose dans le même sens, une phrase, c'est qu'il y a eu quand même un discours mémorable d'une députée iranienne à l'Assemblée, Madame Salah Shouri, qui ne se représente pas, qui a parlé de dictature au sein du Parlement islamique, qui a été huée évidemment, on n'a pas pu l'arrêter, elle a été absolument admirable. Donc vous voyez, elle a nommément dit, cette dictature ne peut pas continuer, je ne veux pas dire tout le discours, mais vous voyez, je veux dire, effectivement, je voulais parler de ça, et je voulais également dire une chose, ce que dit Azadeh est tout à fait perceptible en Iran depuis des années. Je veux dire, pourquoi vous allez dépenser de l'argent ailleurs alors qu'on est en train de crever la dalle ici? Comme je vous ai dit, moi j'étais en province et la situation est catastrophique. Néanmoins, un petit bémol, il y a au sein de la population iranienne, au sein des gens qui analysent la situation, jusqu'à maintenant, il y avait quand même une tendance à dire que la guerre entre l'Arabie Saoudite et l'Iran se passait dans les pays par une guerre interposée au Yémen, au Liban, etc. Je ne dis pas que c'est justifié ou que ce n'est pas justifié. Hein. Je suis en train de vous dire là, que notre sécurité, le régime avait pu faire passer, peut-être pas totalement à tort d'ailleurs, en disant que la géopolitique de la région nous assure quelque part cette sécurité que vous avez en Iran. Et effectivement, c'est parce que, comme monnaie d'échange, comme on a un pouvoir de géopolitique régionale, c'est-à-dire on est quand même maître en Irak, on est maître au Yémen, on est maître au Liban. Donc vous voyez, c'est grâce à ça qu'on a encore cette sécurité à l'intérieur. Ce message passait plus ou moins.
Mais à l'époque de Daesh, Fariba, moi je ne suis pas d'accord. À l'époque de Daesh, effectivement, les gardiens de la révolution sont allés en Irak, c'était les premiers à y être, avec aussi d'autres personnels de l'armée, etc., pour se battre contre Daesh aux côtés des Kurdes irakiens. Et effectivement, de ce fait, ils ont empêché le passage des gens de Daesh vers l'Iran, puisque les frontières entre, vous savez, l'Iran, l'Irak, l'Iran, le Pakistan, tout ça, ce sont des frontières très poreuses. Et donc, c'est ça qui a protégé, effectivement, le pays. À cela s'ajoute, bien évidemment, et je suis d'accord, le nationalisme des Iraniens, le nationalisme. Mais en même temps, le nationalisme, d'accord, on l'a vu aussi sous Khatami, le nationalisme iranien par rapport à la technologie nucléaire. Il y en a qui soutenaient le régime pour dire qu'il faut qu'on puisse acquérir le nucléaire ou alors les missiles balistiques, etc. Mais en même temps, quand les gens crèvent de faim et qu'ils voient que finalement toutes ces dépenses ne sont pas en Iran, mais en Syrie, mais en Irak et ailleurs, ils se posent de plus en plus la question. D'autant que l'Iran est de plus en plus contesté. Ça, c'est très important. Cela fait combien de semaines, de mois que les Irakiens ordinaires sont en train de se battre dans la rue? Ce sont des chiites irakiens, qui étaient censés être des appuis du régime islamique d'Iran, qui sont dans la rue, qui sont tués tous les jours, pour contester le pouvoir iranien dans leur pays. Pareil au Liban, et on voit qu'ils les massacrent et qu'ils les répriment. Donc, je veux dire, le pouvoir du régime islamique, et puis en Syrie, ce sont les Russes qui vont bien évidemment être bénéficiaires de tout ce que l'Iran investit en Syrie, et pas les Iraniens. Donc, les Iraniens ne sont pas dupes. Oui, il y a des idéologues du régime qui tente de dire on a bien fait, il faut continuer pour se maintenir au pouvoir. Mais la population, les Iraniens ne sont pas dupes.
On va se quitter le temps d'un nouveau journal sur RFI. On se retrouve dans 10 minutes pour continuer à débattre de la situation en Iran avec Azadeh Kian, Fariba Ashroudi et Clément Terme.
Géopolitique, Chantal Leroux.
Bienvenue si vous nous rejoignez pour la seconde partie de Géopolitique. Répression à huis clos, relance de son programme nucléaire. Le régime iranien est-il aux abois? On en débat avec trois spécialistes de l'Iran. La sociologue Azadeh Kian, la journaliste écrivaine Fariba Achroudi et le chercheur Clément Terme. Clément Terme, est-ce que l'Iran va devoir réviser à la baisse son projet d'hégémonie régionale, ou est-ce que cela reste son assurance-vie en cas de confrontation militaire avec les États-Unis ou avec Israël?
En fait, je pense qu'il y a eu une surestimation de la puissance régionale de l'Iran et on n'a pas vu à la fois les fragilités à l'intérieur du pays, notamment la vulnérabilité économique, et à l'extérieur, l'affaiblissement de l'idéologie de l'ayatollah Khomeini qui est promue par l'Iran au niveau régional. Alors au niveau intérieur, c'est ce que disait Azadeh, le régime présente à la population un jeu à somme nulle entre soit vous aurez la sécurité, soit le développement socio-économique. Et c'est ce que refuse aujourd'hui la population parce qu'on a une récession de près de 10% pour 2019. Donc on a vraiment un affaiblissement économique qui est très fort et je pense que la majorité de la population en Iran souhaite devenir un pays normal, avoir un développement économique significatif et que les autorités investissent là-dedans. Parce qu'il faut bien comprendre qu'une partie des sanctions économiques sont liées à la politique régionale du pays. Et je ne crois pas que la population iranienne soit dupe sur cette question. Et donc s'ils doivent choisir entre Gaza, le Hezbollah et devenir un pays émergent qui se focalise sur l'intégration dans la mondialisation économique, ils vont choisir l'intégration dans la mondialisation économique qui n'est pas possible du fait de cette politique régionale. Et depuis très longtemps, il y a cette conscience qui existe, qui s'exprimait dans la sphère privée auparavant, il y a une dizaine d'années, et qui aujourd'hui apparaît dans la sphère publique. Sur le plan régional, le soft power de l'Iran est menacé, d'abord par la guerre en Syrie depuis 2011, où l'Iran, pour la première fois, est apparu comme une force contre-révolutionnaire, puisque l'Iran n'a pas soutenu la révolution syrienne. Elle a soutenu le statu quo avec le maintien du régime de Bachar al-Assad en place. Et là, cette fois-ci, en Irak et au Liban. Certes, la République islamique a pu survivre en habillant l'intervention en Syrie autour d'un discours sur la guerre contre le terrorisme, une alliance avec la Russie militaire, alors que les Russes sont très prudents, parce que les Russes s'entendent à la fois avec Israël, avec l'Arabie Saoudite, qui sont des rivaux de l'Iran. Donc il y a quand même eu aussi, dans la stratégie syrienne, une forme d'aveuglement, je pense, de la part du régime iranien. Et là maintenant, en Irak et au Liban, où on voit une poussée, une demande de sécularisation. Et ça, c'est très important à comprendre, parce que cette convergence des luttes s'explique par ce besoin de laïcité, cette demande, en fait, de séparation des affaires religieuses et politiques. Et il y a de l'anticléricalisme à la fois en Iran et en Irak, par exemple. Et l'affaiblissement de l'Iran est lié à ces phénomènes populaires qui ont été sous-évalués, je pense. Donc les vulnérabilités de l'Iran sont à l'intérieur le risque d'effondrement économique, et à l'extérieur un modèle qui n'est pas exportable, parce que, finalement, dans la région, l'Iran ne constitue pas un modèle positif. Il n'y a pas de rêve iranien. Les jeunes iraniens migrent vers l'Occident. Les jeunes irakiens n'espèrent pas, à part quelques étudiants en religion, n'espèrent pas aller vivre en Iran. Donc l'Iran a surtout bénéficié des erreurs américaines. C'était ça le capital de sympathie de l'Iran dans la région, à l'extérieur. Et aujourd'hui, malheureusement, capitaliser seulement sur les erreurs américaines ne suffit plus à l'extérieur non plus. Donc on voit même, avec la politique de l'administration Trump, qui aussi contribue à affaiblir la situation des droits de l'homme à l'intérieur de l'Iran, notamment le droit à la santé, n'est pas incriminé en premier lieu par les manifestants. C'est la responsabilité locale qui est mise en avant. Donc l'outil géopolitique du régime d'accuser toujours Israël, l'Arabie Saoudite et les États-Unis dans un cadre d'un discours complotiste, d'accuser les manifestants d'être des agents de l'étranger, ne fonctionne plus.
Absolument.
Azadeh Kian, mais les Américains, eux, qu'est-ce qu'ils escomptaient en appliquant cette stratégie maximale de pression, c'est-à-dire les sanctions, le rétablissement des sanctions après la sortie des États-Unis de l'accord sur le nucléaire signé en 2015? Ils voulaient, même s'ils l'ont toujours démenti officiellement, est-ce qu'ils voulaient vraiment la chute du régime iranien?
Je ne le pense pas vraiment. Quand Trump dit que le régime change n'est pas notre but, je le crois. Et je crois aussi que les Européens et d'autres puissances ne souhaitent pas la chute actuellement du régime islamique d'Iran, pour une simple raison que l'Iran est quand même un point important au sein du Moyen-Orient et aussi du Golfe Persique, que si ce régime chute aujourd'hui, il n'y a pas d'alternative politique à ce régime. La longévité du régime islamique est vraiment liée à l'absence d'alternative politique à ce régime. Et ça reste d'actualité. Donc, le régime s'affaiblit, le régime chute, qu'est-ce qu'on aura? Le chaos partout, et pas seulement en Iran, mais dans l'ensemble de la région. Et c'est ça qui fait que ni les États-Unis, ni les Européens, et encore moins les Russes et les Chinois, personne ne souhaite la chute actuellement du régime islamique d'Iran. Ce que cherchaient les Américains, enfin Trump en particulier, c'était d'affaiblir le régime islamique d'Iran afin de les obliger à négocier et à accepter les termes avancés par Trump, à savoir déjà sur le nucléaire, sur les missiles balistiques, mais aussi les ingérences de l'Iran dans la région. Maintenant, peut-on dire que cette politique a réellement réussi? Je ne le pense pas. Pourquoi? Parce que quand je regarde justement, et Fariba peut en témoigner mieux que moi, l'appauvrissement de plus en plus grand des populations, et pas seulement des populations démunies, mais aussi des classes moyennes, voire moyennes, plus ou moins aisées, instruites, qui aujourd'hui ont de plus en plus de mal à survivre parce que l'inflation est très importante, parce que les produits de première nécessité en ce qui concerne par exemple les médicaments, les équipements médicaux, etc. commencent à manquer, leur prix augmente, ce qui fait que les Iraniens ordinaires ont de plus en plus mal à survivre. Quand vous passez votre journée à chercher à trouver à manger et donner à manger à vos enfants, eh bien, vous réfléchirez peut-être moins à contester politiquement le régime. Donc, il y a, à mon sens, une différence entre les mouvements qu'on a vus qui ont pour revendication principale les revendications sociales, économiques, et un mouvement politique, au sens politique du terme, contre le régime islamique. Et ça, on ne l'a pas encore vu émerger, d'où l'absence de cette alternative. Donc, je pense que la situation à l'intérieur de l'Iran est une situation très complexe, effectivement, comme c'est un régime de plus en plus contesté. Là, en février-mars, il y aura les élections législatives pour le 11e Parlement. On voit déjà, comme Fariba l'a dit, Madame Salah Chouri et plusieurs autres députés réformistes radicaux qui ne se présentent même pas parce qu'ils disent ça sert à rien d'être membre du Parlement, vu que l'augmentation du prix de pétrole n'a même pas été discutée avec le Parlement. Les décisions importantes sont prises au niveau des trois pouvoirs plus le guide, donc judiciaire, législatif, exécutif plus le guide. Et souvent, maintenant, de plus en plus, c'est le guide qui décide aussi. Donc, ça sert à quoi d'être député au Parlement? Et les gens, les Iraniens aussi, se posent la question de savoir de plus en plus, ça sert à quoi d'aller voter? Parce que la légitimité de ce régime provenait aussi du vote, même si effectivement les candidats sont filtrés, mais il y avait quand même toujours un espoir. Rouhani, quand il s'est fait réélire en 2017, il y a des gens quand même qui disaient bon, autant voter pour lui pour mener à bien sa politique suite à la signature de traité sur le nucléaire, pour aller vers la réintégration de l'Iran au sein de ce qu'on appelle la communauté internationale, c'est-à-dire la mondialisation en réalité. Tout ça, aujourd'hui, ces gens-là sont vraiment très désillusionnés, et ce qu'on sait, c'est qu'ils ne vont pas voter. Et là, les appels au boycottage des législatives sont des appels qui proviennent de l'Iran, de la part de ceux-là même qui, jusqu'à des réformistes qui font partie de ce régime, qui aujourd'hui appellent au boycottage. Donc, ce régime, de plus en plus, a perdu sa légitimité. Il y a 10 à 20% qui le soutiennent pour des raisons diverses, idéologiques, ou voire financières, ou voire pour autres raisons. Mais en tout cas, on en est là. C'est un régime qui a perdu sa légitimité, c'est un régime qui est décrit. Aussi, il n'y a pas d'alternative. Donc, pour le moment, personne ne veut la chute réellement de ce régime.
Clément Terme, en même temps, les États-Unis voulaient affaiblir le régime, mais ils ont renforcé les durs et fait perdre peut-être le peu de popularité qu'il restait au président réformateur, entre guillemets, Hassan Rouhani. Donc, est-ce que cette stratégie maximale de pression sur l'Iran n'a pas montré ses limites?
Elle a montré ses limites sur le plan politique, c'est-à-dire que l'objectif affiché, la reddition de l'Iran, les 12 conditions posées par Mike Pompeo, n'a pas été obtenu. Mais par contre, sur le plan économique, l'efficacité est redoutable. C'est-à-dire que les chiffres de la croissance ou les chiffres des exportations de pétrole iranien sont là pour en témoigner. Donc la capacité du régime à compenser son déficit de légitimité dont parlait Azadeh par, disons, un clientélisme économique, ça, c'est affaibli. Donc il y a un point névralgique du régime qui a été touché par les sanctions sanctions contre les exportations pétrolières iraniennes. Par contre, le problème de cette stratégie, c'est qu'en l'absence d'alternative, elle permet au régime de capitaliser sur le vide politique qu'il a fait depuis 40 ans autour de lui. Parce que s'il n'y a pas d'alternative, c'est que le régime s'est occupé, surtout au début, d'éliminer la gauche iranienne, etc. Donc, les mouvements alternatifs ont été éliminés progressivement de la scène politique. C'est un processus que le régime a contrôlé. Maintenant, la difficulté, c'est que son incapacité à canaliser les mécontentements, c'est que les gens risquent d'avoir recours à des moyens qui sont la violence. Parce que s'il n'y a pas de solution politique, et c'est là le danger de la stratégie du régime pour contrer la politique de pression maximale des États-Unis, c'est de recourir à la répression qui elle-même nourrira la violence future et qui va augmenter la polarisation dans la société. Et le problème, c'est que les forces de répression sont structurées, organisées financièrement, sur le plan idéologique, et par contre, les forces de contestation sont spontanées. C'est pour ça que souvent, le déclenchement se fait sur des motifs économiques, parce que c'est une urgence, en fait, parce qu'il y a un risque à aller manifester. Donc, on estime, là, selon les chiffres du régime, entre 120 000 et 200 000 manifestants, mais c'est quand même des gens qui ont risqué leur vie en allant manifester. Après, là où le régime est affaibli, c'est dans les contre-manifestations, parce que ces manifestations organisées, qui étaient quand même une des forces de la République islamique, sont de plus en plus carnavalesques, c'est-à-dire que ce sont des gens qui sont payés pour sortir dans la rue, contrôlés dans le cadre de leur travail. Donc la capacité de mobilisation, qui était une des autres formes de légitimation du régime en plus du vote et de la légitimité du guide, donc là est aussi affaiblie. Ça, c'est un point nouveau aussi, la contre-mobilisation. Et par contre, les raisons de manifester par la population vont augmenter au cours des prochains mois. Parce que c'est pas les élections législatives qui vont fournir une solution aux problèmes économiques du pays, parce que comme l'a dit Azadeh, le Parlement ne décide de rien. Et donc là, il va y avoir quand même à un moment donné un décalage entre les institutions formelles du régime et le mécontentement populaire et la déconnexion entre les deux. Après, l'outil principal du régime, c'est la peur du chaos, parce que l'absence d'alternatives politiques risque de conduire à un état failli. Et ça reste le principal atout du régime, de dire c'est moi ou le chaos.
Alors ces derniers mois, l'Iran a commencé à rompre les engagements qu'il avait pris en signant en 2015 l'accord sur le nucléaire, son programme nucléaire avec les 5 puissances du Conseil de sécurité plus l'Allemagne. Qu'est-ce qu'il escompte en relançant son programme nucléaire ?
C'est un moyen d'abord de montrer sur le plan formel que la politique américaine échoue. Parce que l'idée des Américains, c'était de dire l'Iran, face à la pression, va obtempérer. Donc là, c'est juste en fait un message qui est envoyé en disant cette stratégie ne fonctionne pas. Et ils ont annoncé une prochaine étape en janvier avec l'enrichissement à 20%, la possible sortie du TNP. Donc c'est des menaces rhétoriques qui sont avancées par les partisans de la République islamique. Mais le passage à l'acte est difficile parce que l'accord sur le nucléaire avait été construit pour prouver que l'Iran ne recherche pas une bombe atomique à construire un programme nucléaire militaire. Donc si l'Iran veut détricoter cet accord, le problème c'est qu'il risque de montrer des intentions qui correspondent pas à son discours officiel, c'est-à-dire que le programme est pacifique. Après, la question, c'est surtout par rapport aux Européens, qui avaient aussi des engagements économiques vis-à-vis de l'Iran, et qui se trouvent en porte-à-faux, puisqu'ils n'ont pas de contrôle sur les acteurs économiques privés, donc ils n'ont pas pu respecter leur part du contrat. Donc l'Iran essaye d'envoyer un message d'autonomisation vers les Européens, en leur disant, si vous ne nous récompensez pas sur le plan économique, si vous achetez pas notre pétrole... Mais là, ils sont complètement marginalisés, les Européens, parce qu'on voit que maintenant, le président Rouhani va aller négocier avec le Japon. Donc, c'est la fin de la médiation française. Donc, on va voir si du côté asiatique que l'Iran recherche une solution. Donc, c'est une politique qui est pas nouvelle, mais qui s'accentue parce qu'il n'y a pas d'autre alternative. Donc, la seule possibilité pour la République islamique, c'est de se tourner vers la Chine, vers la Russie, vers le Japon, vers la Corée du Sud. Parce que les Européens sont trop liés aux Américains sur le plan économique. Et la stratégie iranienne ne fonctionne pas parce que les Américains préfèrent négocier directement avec l'Iran et ne souhaitent pas vraiment avoir des intermédiaires européens, sous l'administration Trump en tout cas. Après, si un président démocrate est élu l'année prochaine, là, ça sera peut-être différent. Il y aura peut-être un rôle qui sera de nouveau attribué aux Européens. Mais en l'état actuel des choses, les Européens ne peuvent pas s'affirmer contre la puissance américaine. Donc la stratégie de survie de la République islamique sur le plan économique, pour l'instant, est très affaiblie et dépend de l'Asie. Donc c'est la Russie a octroyé un prêt de 5 milliards de dollars. Et il y a beaucoup de gens qui disent à Moscou que c'est très risqué, hein, et compte tenu de la situation économique du pays, de faire un prêt à la République islamique en ce moment. Mais je pense que ça signifie aussi la dépendance de l'Iran différents vis-à-vis de ces pays. Et donc, c'est un échec du slogan de la politique étrangère qui est celui de l'indépendance.
Clément Terme, le 14 septembre, des missiles de croisière et des drones ont frappé en Arabie Saoudite deux infrastructures stratégiques du secteur pétrolier. L'Iran a démenti toute implication, mais les frappes ont été revendiquées par les rebelles houthis du Yémen soutenus par Téhéran. Donald Trump a réagi plutôt mollement. Est-ce que l'Arabie Saoudite et Israël ont des raisons de s'inquiéter ?
Le message qui a été envoyé à la région est très clair. C'est de dire que si vous souhaitez faire pression sur l'Iran ou adhérer à la position de l'administration Trump, la prospérité économique de la zone est menacée. Et comme ces pays du Golfe, comme l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis par exemple, sont vulnérables, parce que ce sont des États qui sont focalisés sur le pétrole, donc leur développement économique dépend encore très largement de leurs exportations de pétrole et de leur industrie de l'énergie. Et pour cela, ils ont besoin de stabilité, à la fois pour la circulation des tankers dans le détroit d'Ormuz et dans la région, et par rapport à leurs installations pétrolières, tout simplement. Donc le message de l'Iran visait à infléchir la politique de ces pays. Les Émirats Arabes Unis, les premiers, ont changé de position au printemps, sont maintenant favorables à la médiation et au dialogue, et l'Arabie Saoudite aussi est maintenant dans une stratégie, disons, plus ouverte vis-à-vis de la République islamique d'Iran. Mais encore une fois, là, c'est un intérêt négatif de l'Iran, parce que ces pays-là sont des concurrents, ont bénéficié de la révolution islamique, parce que à l'époque du Shah, c'était l'Iran qui jouait le rôle de hub entre l'Europe et l'Asie. Et donc l'émergence de Dubaï est liée à l'émergence de ce régime. Donc il y a quand même... je ne sais pas si tous ces pays ont intérêt à ce que l'Iran soit très performant sur le plan économique. Donc il y a une forme d'intérêt au statu quo, mais pas à l'escalade, par contre. Donc d'accord pour les sanctions économiques, mais pas pour une confrontation militaire. Ça, c'est le point de vue de l'autre rive du Golfe, de la rive arabe du Golfe Persique. Sur les mécanismes de commerce avec l'Iran, la baisse du commerce entre l'Iran et l'Europe sur la dernière année par rapport à l'année précédente est moins 75%. Et les Américains sont en train de construire un mécanisme pour le commerce humanitaire avec les Suisses. Donc c'est quand même un message très clair pour les Européens. Donc la marginalisation des Européens est liée à une double action, à l'action de la République islamique, la stratégie dont vous avez parlé, le retrait progressif de l'accord sur le nucléaire qui place les Européens dans une position difficile, mais il y a aussi l'action de l'administration Trump, hein, qui a refusé la médiation du président Macron dans une très grande part. Et ensuite, ce passage vers la Suisse est très significatif aussi. Donc on va voir, est-ce que les Iraniens et les Américains vont réussir à construire une nouvelle relation, parce qu'il y a cette peur du chaos, finalement. Et ceux qui étaient favorables au changement de régime aux États-Unis, notamment John Bolton, ont été évincés. Donc c'est vrai que l'administration Trump, maintenant, et plus sur une politique, disons, d'affaiblissement de l'Iran, mais sans effondrement de l'État, en tout cas.
Fariba Achroudi, ma dernière question sera pour vous. En qui, en quoi les Iraniens peuvent-ils espérer aujourd'hui ?
Il y a une résistance et une représentation d'opposition qui est en train de se former à l'intérieur avec des représentants qui étaient au sein de ce pouvoir, effectivement, et qui sont en train de se démarquer de plus en plus nettement. Eux, ils peuvent présenter non seulement les classes populaires, mais les classes moyennes, qui pour le moment, par peur, par intérêt, par le fait qu'ils arrivent encore à survivre, mais de moins en moins, pourraient effectivement composer une nouvelle, parce que à cause de Trump et à cause de cette politique de sanctions, la société civile iranienne, qui commence à avoir un pouvoir réel à l'intérieur du pays, n'existe plus. Condamnation de 5 à 10 ans d'emprisonnement pour les syndicalistes, pour les journalistes, pour les... c'est énorme. Mais s'il y a une seule bonne chose, c'est qu'il y a vraiment une opposition qui est en train d'avoir des représentants à l'intérieur, qui ne sont peut-être pas des représentants pérennes, mais où il peut y avoir une émergence d'une réelle contestation généralisée. Ça ne va pas être du jour au lendemain, parce que la répression est terrible. C'est pour ça, d'ailleurs, ils ont réprimé aussi rapidement et de façon aussi radicale. Mais c'est parce que, effectivement, au sein même du pouvoir, ils voient les fractures, et des fractures sérieuses, y compris au sein des gardiens de la Révolution. Ça, on m'a dit qu'il y avait vraiment des généraux qui commencent à se dire « ce n'est pas possible », parce que on va dans le mur. La vie là-bas est très dure. Le quotidien des gens est très dur.
Merci beaucoup à tous les trois d'avoir été nos invités. Fariba Achroudi, journaliste, écrivaine. Vous avez publié Le Colonel et l'APA 455 chez Albin Michel. Azadeh Kian, professeur de sociologie, spécialiste de l'Iran à l'université Paris Diderot Paris 7. Votre dernier livre, Femmes et pouvoir en islam, est paru chez Michelon. Clément Terme, chercheur post-doctorant aux séries Sciences Po, dans l'équipe Savoir Nucléaire, c'est bien ça. Les éditions Passé Composé publieront en février février prochain un ouvrage collectif que vous avez dirigé, L'Iran et ses rivaux, entre nations et révolutions. Merci également à Laurie Plisson qui a réalisé cette émission et à Véronique Durand et Louise Caledec qui m'ont aidé à la préparer.